Et nous continuons notre série dans le livre des Juges. Juges chapitre 18. Et nous allons lire le chapitre en entier. Juges chapitre 18. Commençons au verset 1. Et voici donc la parole de Dieu. En ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël. Et la tribu des Danites se cherchait une possession pour s'établir, car jusqu'à ce jour, il ne lui était point échu d'héritage au milieu des tribus d'Israël. Les fils de Dan prirent sur eux tous, parmi leurs familles, 5 hommes vaillants, qu'ils envoyèrent de Tsoréa et d'Eshtaol pour explorer le pays et pour l'examiner. Ils leur dirent, « Allez, examinez le pays. » Ils arrivèrent dans la montagne d'Éphraïm jusqu'à la maison de Mica, et ils y passèrent la nuit. Comme ils étaient près de la maison de Mica, ils reconnurent la voix du jeune Lévite, s'approchèrent et lui dirent, « Qui t'a amené ici? Que fais-tu dans ce lieu? Et qu'as-tu ici ?» Il leur répondit, « Mica fait pour moi telle et telle chose, il me donne un salaire et je lui sers de prêtre. » Et lui dirent, « Consulte Dieu, afin que nous sachions si notre voyage aura du succès. » Et le prêtre leur répondit, « Allez en paix. Le voyage que vous faites est sous le regard de l'Éternel. » Verset 7. Les 5 hommes partirent et ils arrivèrent à Laïs. Ils virent le peuple qui y était, vivant en sécurité à la manière des Sidoniens, tranquille et sans inquiétude. Il n'y avait dans le pays personne qui leur fasse le moindre outrage en dominant sur eux. Ils étaient éloignés des Sidoniens et ils n'avaient pas de liaison avec d'autres hommes. Ils revinrent auprès de leurs frères, Tsoréa et Eshtaol, et leurs frères leur dirent, « Quelle nouvelle apportez-vous ? » « Allons, répondirent-ils, montons contre eux, car nous avons vu le pays, et voici, il est très bon. Quoi ? Vous restez sans rien dire ? Ne soyez point paresseux à vous mettre en marche pour aller prendre possession de ce pays. Quand vous y entrerez, vous arriverez vers un peuple en sécurité. Le pays est vaste, et Dieu l'a livré entre vos mains. C'est un lieu où rien ne manque de tout ce qui est sur la terre. 600 hommes de la famille de Dan partirent de Tsoréa et d'Eshtaol, munis de leurs armes de guerre. Ils montèrent et campèrent à Kiriat Jearim en Juda. C'est pourquoi ce lieu qui est derrière Kiriat Jearim est appelé jusqu'à ce jour Machané Dan. Ils passèrent de là dans la montagne d'Éphraïm et ils arrivèrent jusqu'à la maison de Mica. Alors les 5 hommes qui étaient allés pour explorer le pays de Laïs prirent la parole et dirent à leurs frères, « Savez-vous qu'il y a dans ces maisons-là un éphod, des théraphimes, une image taillée et une image en métal fondu ? Voyez maintenant ce que vous avez à faire. » Ils s'approchèrent de là, entrèrent dans la maison du jeune Lévite, dans la maison de Mica, et lui demandèrent comment il se portait. Les 600 hommes d'entre les fils de Dan, munis de leurs armes de guerre, se tenaient à l'entrée de la porte. Et les 5 hommes qui étaient allés pour explorer le pays montèrent et entrèrent dans la maison. Ils prirent l'image taillée, l'éphod, les théraphimes et l'image en métal fondu, pendant que le prêtre était à l'entrée de la porte, avec les 600 hommes munis de leurs armes de guerre. Lorsqu'ils furent rentrés dans la maison de Mica et qu'ils eurent pris l'image taillée, l'éphod, les théraphimes et l'image en métal fondu, le prêtre leur dit, « Que faites-vous ? » Ils lui répondirent, « Tais-toi, mets ta main sur ta bouche et viens avec nous. Tu nous serviras de père et de prêtre. Vaut-il mieux que tu serves de prêtre à la maison d'un seul homme ou que tu serves de prêtre à une tribu ? Et à une famille en Israël. Le prêtre éprouva de la joie dans son cœur. Il prit l'éphod, les théraphimes et l'image taillée, et se joignit à la troupe. Verset 21. Ils se remirent en route et partirent en plaçant devant eux les enfants, le bétail et les bagages. Comme ils étaient déjà loin de la maison de Mica, les gens qui habitaient les maisons voisines de celle de Mica se rassemblèrent et poursuivirent les fils de Dan. Ils appelèrent les fils de Dan qui se retournèrent et dirent à Mica, Qu'as-tu? Et que signifie ce rassemblement? Il répondit, Mes dieux que j'avais faits, vous les avez enlevés avec le prêtre et vous êtes partis. Que me reste-t-il? Comment donc pouvez-vous me dire, Qu'as-tu? Les fils de Dan lui dirent, Ne fais pas entendre ta voix près de nous, sinon des hommes irrités se jetteront sur vous, et tu causeras la perte, ta perte et celle de ta maison. Et les fils de Dan continuèrent leur route. Mica, voyant qu'ils étaient plus forts que lui, s'en retourna et revint dans la maison, dans sa maison. Verset 27. Ils enlevèrent ainsi ce qu'avait fait Mica et emmenèrent le prêtre qui était à son service. Ils tombèrent sur Laïs, sur un peuple tranquille et en sécurité. Ils le passèrent au fil de l'épée et ils brûlèrent la ville. Personne ne la délivra, car elle était éloignée de Sidon et ses habitants n'avaient pas de liaison avec d'autres hommes. Elle était dans la vallée qui s'étend vers Beth-Rehob. Les fils de Dan rebâtirent la ville et y habitèrent. Ils l'appelèrent Dan, d'après le nom de Dan, leur père, qui était né à Israël. Mais la ville s'appelait auparavant Laïs. Ils dressèrent pour eux l'image taillée. Et Jonathan, fils de Guershom, fils de Manassé, lui et ses fils furent prêtres pour la tribu des Danites, jusqu'à l'époque de la captivité du pays. Ils établirent pour eux l'image taillée qu'avait faite Mica pendant tout le temps que la maison de Dieu fut à Silo. Et c'est la parole de Dieu. Je ne sais pas si il vous arrive de repenser à l'avertissement de l'apôtre Jacques en Jacques chapitre 4, versets 13 à 16, où Jacques dit ceci à vous maintenant qui dites aujourd'hui ou demain nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous trafiquerons et nous gagnerons, vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Vous devriez dire au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Mais maintenant, vous vous glorifiez dans vos pensées orgueilleuses. C'est chose mauvaise de se glorifier de la sorte. Cet avertissement de Jacques est rempli de conseils spirituels, de conseils bibliques, et il établit un principe important concernant la volonté de Dieu. En même temps, il offre un principe qui est logique, qui est sensé. C'est un peu comme l'avertissement du roi Achab en réponse à la menace d'attaque du roi Ben-Hadad en 1 roi 20, verset 11, où Achab dit, le roi d'Israël répondit, que celui qui revêt une armure ne se glorifie pas comme celui qui la dépose. Encore une fois, c'est un principe de bon sens, c'est un peu comme le proverbe bien connu, ne vendez pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué. D'une part, Dieu recommande une sage planification et les efforts de son peuple pour accomplir des buts, en particulier des buts par lesquels il reçoit la gloire. Et d'autre part, il est très facile pour nous de faire des plans, d'établir des objectifs basés uniquement sur nos désirs, et ensuite tenter de mettre sur eux le sceau de l'approbation de Dieu. Si la volonté de Dieu pour chacun de nous concernant toutes les questions de la vie avait été énoncée explicitement dans sa parole, cela aurait pu empêcher beaucoup de nos tentatives pour faire passer notre volonté comme étant la volonté de Dieu. Mais il y a beaucoup de domaines dans la vie ou de la vie, dans la vie où la parole de Dieu donne des conseils, établit des principes, aborde les choses de façon claire. Par exemple, la Bible est assez claire au sujet du mensonge, au sujet du vol, de l'adultère ou du meurtre. On connaît la volonté de Dieu sur ces questions. Mais quand chaque personne fait ce qui est juste à ses propres yeux, ce qui lui semble bon, il est probable que même les questions que Dieu a abordées clairement sont victimes de désirs et d'actions personnelles. Et comme nous le savons maintenant, c'était un véritable problème pendant ces jours des juges en Israël. Les gens faisaient ce qu'ils voulaient. Et ils ont eu l'audace de saupoudrer leurs choix et leurs actions d'un peu de poussière de Dieu, si on peut dire, pour se convaincre qu'ils faisaient la volonté de Dieu. Et ce genre de vie se traduira par une culture très désordonnée. Et la tribu de Dan prouve dans ce texte à quel point le peuple d'Israël, le peuple que Dieu avait choisi, était perturbé. Tout en prétendant faire la volonté de Dieu, ils sont partis faire leur propre volonté. Et non seulement cela a-t-il causé des problèmes à leur génération, mais ils ont jeté les bases pour de grands problèmes pour les générations futures. En effet, le choix obstiné du peuple de Dan a jeté les bases de la destruction d'Israël dans les années à venir. Et on doit donc apprendre de leurs erreurs pour mesurer nos désirs, nos plans face aux déclarations claires de la parole de Dieu. Premier grand point dans ce message, Dan cherchait une nouvelle demeure dans les 13 premiers versets. Nous allons voir dans cette histoire comment les représentants de Dan, les espions de Dan ont trouvé le prêtre de Mica qui a dit aux espions qu'ils faisaient la volonté de Dieu. Tout est arrivé parce que les gens de Dan ont décidé qu'ils avaient besoin d'un endroit qu'ils pourraient appeler leur chez-soi. Ils étaient convaincus qu'ils n'avaient pas d'endroit où vivre. Verset 1. En ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël. C'est intéressant, l'auteur ne termine pas ce refrain qu'on retrouve dans le chapitre 17, verset 6, et à la fin, au chapitre 21, verset 25, qui dit « Et chacun faisait ce qui lui semblait bon. » Parce que c'est quelque chose qui est maintenant évident. En ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël, et la tribu des Danites se cherchait une possession pour s'établir, car jusqu'à ce jour, il ne lui était point échu d'héritage au milieu des tribus d'Israël. L'auteur souligne, encore une fois, il n'y avait point de roi en Israël. Mais est-ce qu'un roi aurait pu arrêter la folie des Danites? Le texte dit que le peuple de Dan cherchait un héritage. Et ça, c'est bizarre. Est-ce qu'ils cherchaient un endroit où vivre parce qu'aucun héritage ne leur était tombé dessus? Mais qu'en était-il du plan de Dieu que Josué avait mis en application? Dans le livre de Josué, au chapitre 19, versets 40 à 46, on lit ceci: la septième part échut par le sort à la tribu des fils de Dan, selon leur famille. La limite de leur héritage comprenait Tsoréa, Eshtaol, Ir-Shemesh, Shaalabim, Ajalon, Jitla, Elon, Timnata, Ekron, Elteke, Gibbethon, Baalath, Jehud, Béné-Bérak, Gath-Rimon, Mé-Jarkon et Rakon, avec le territoire vis-à-vis de Jaffo. Et si on met la carte qui est là, c'est la partie encadrée, le carré qui se trouve plutôt vers le milieu du pays. Et c'est un territoire qui partait de la mer Méditerranée pour ensuite entrer dans le pays. La volonté de Dieu et la partie du pays qu'il leur a attribué, c'était cette région. C'est, comme Josué 19 le dit, c'est la septième part échue par le sort à la tribu des fils de Dan. Mais les Danites n'ont pas chassé les habitants du pays de la promesse. Ils n'ont même pas pris possession de leur héritage. Encore une fois, si on continue dans le livre de Josué, chapitre 19, verset 47, on a un résumé de l'événement qu'on est en train d'étudier dans ce chapitre 18 des Juges. Mais Josué le résume en Josué 19, verset 47, avec une petite précision. Le territoire des fils de Dan s'étendait hors de chez eux. Et en fait, la traduction devrait dire « quand le territoire des Danites leur a échappé ». Les fils de Dan montèrent combattirent contre Léchem, qui est aussi appelé Laïs. Et sur la carte, c'est le petit rectangle en haut, au nord du pays. Ils s'en emparèrent et la frappèrent du tranchant de l'épée. Ils en prirent possession, s'y établirent et l'appelèrent Dan, du nom de Dan, leur père. En fait, la tribu de Dan a perdu son territoire. Et la phrase veut vraiment dire ça leur a glissé entre les doigts. Et maintenant, on peut se demander comment ce territoire donné par Dieu a pu glisser entre leurs doigts, alors que Dieu avait promis qu'il donnerait à chaque tribu la terre qu'il avait promise comme héritage. Moïse avait dit au peuple en Deutéronome 31, verset 5, l'Éternel vous les livrera, vous agirez à leur égard selon tous les ordres que je vous ai donnés. Mais puisque Dieu n'échoue jamais, Dieu garde toujours ses promesses. Ce doit être le peuple de Dan qui a échoué. Et c'est bien le cas. Dans le chapitre 1 du livre des Juges, au verset 34, nous lisons: Les Amoréens repoussèrent dans la montagne les fils de Dan et ne les laissèrent pas descendre dans la plaine. Et Dan n'a jamais pris possession de son héritage. Quand l'ennemi gagne dans notre vie, ce n'est pas parce que Dieu a échoué. Dieu a promis en 1 Jean 5, verset 4, Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. C'est pourquoi la volonté de Dieu pour nous, son peuple, elle est évidente. Romains 6, 14, car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Et donc, si le péché a un pouvoir sur le croyant, le problème ne vient pas de Dieu. Le problème ne vient même pas du diable. Le problème vient du croyant qui ne dépend pas de Dieu, qui ne s'approprie pas les ressources, les promesses de Dieu, les instructions de Dieu, l'Esprit Saint de Dieu, la prière. C'était le cas pour les gens de Dan, incapables d'être satisfait de ce que Dieu leur avait donné et de combattre pour ce que Dieu leur avait donné. Ils sont allés chercher leur demeure dans tous les autres endroits du pays. Verset 2, les fils de Dan prirent sur eux tous, parmi leurs familles, cinq hommes voyants qu'ils envoyèrent de Tsoréa et d'Eshtaol pour explorer le pays et pour l'examiner. Ils leur dirent, allez, examinez le pays. Ils arrivèrent dans la montagne d'Éphraïm jusqu'à la maison de Mica et ils y passèrent la nuit. Les espions choisis par la tribu de Dan ont quitté l'endroit que Dieu leur avait prescrit, l'héritage que Dieu leur avait donné et ils se sont dirigés vers le nord. Et pendant le voyage, ils sont arrivés à la montagne d'Éphraïm, ils se sont arrêtés près de la maison de Mica. Mica, nous l'avons vu la dernière fois, c'est lui qui avait volé l'argent de sa mère, qui avait ensuite avoué. Sa mère avait fait forger une idole d'argent que Mica a ajoutée à son sanctuaire. Il avait créé un éphod, il a établi sa propre religion, il a embauché un lévite pour la diriger. Et maintenant, ces espions arrivent et ils vont trouver ce lévite. C'était providentiel pour eux qu'ils découvrent un prêtre qui pouvait consulter le Seigneur pour eux. Ces hommes étaient assez, ils avaient assez, juste assez de connaissances de la volonté de Dieu qu'ils étaient même un peu surpris de trouver un lévite dans la montagne d'Éphraïm. Comment était-il arrivé là? Verset 3. Où ils étaient près de la maison de Mica, ils reconnurent la voix du jeune lévite, s'approchèrent de lui et dirent: Qui t'a amené ici? Que fais-tu dans ce lieu? Et qu'as-tu ici? Il leur répondit: Mica a fait pour moi telle et telle chose. Il me donne un salaire, je lui sers de prêtre. On peut se demander pourquoi les espions semblaient surpris de trouver ce lévite. Peut-être qu'ils avaient encore une certaine connaissance de la loi de Dieu. Peut-être qu'ils savaient qu'un lévite devait se trouver soit dans une ville lévitique, attribuée aux lévites, soit dans l'endroit où Dieu avait choisi d'avoir sa présence, c'est-à-dire le tabernacle et l'arche de l'Alliance, qui était à ce moment-là à Silo. Et le Lévite va leur expliquer l'extraordinaire offre de Mica, qui, selon lui, était bien sûr la volonté de Dieu. Pourquoi le Lévite ne serait-il pas là, étant donné que Micah s'était engagé à prendre soin de lui? Bien sûr, pour beaucoup de personnes, la richesse et le confort sont toujours des signes de la volonté de Dieu, n'est-ce pas? Eh bien, si Dieu a mis un prêtre à leur disposition, ce doit être la volonté de Dieu pour que les espions apprennent si Dieu allait les bénir. Verset 5. Ils lui dirent, consulte Dieu, afin que nous sachions si notre voyage aura du succès. Le prêtre leur répondit, allez en paix. Le voyage que vous faites est sous le regard de l'Éternel. Apparemment, à cette époque de l'histoire, les Israélites étaient conscients que c'était la volonté de Dieu pour les prêtres de représenter le peuple devant Dieu et de représenter Dieu devant le peuple. Et voilà ces espions de Dan qui sont préoccupés de savoir s'ils allaient réussir à faire ce qui est juste à leurs propres yeux, ce qui leur semblait bon. Et le prêtre a sans doute fait quelque chose avec l'éphod, avec les idoles de Micah. Il est revenu avec la bonne nouvelle que le sceau de l'approbation de Dieu était sur le plan de Dan. C'était tout ce qu'ils avaient besoin d'entendre. Et donc, si une personne religieuse, si une personne avec un habit religieux affirme nos désirs, cela veut dire que nous sommes dans la volonté de Dieu, n'est-ce pas? Est-ce que c'est comme Balaam qui à un moment a déclaré la volonté de Dieu pour son peuple et à un moment suivant les a conduits dans l'idolâtrie et la fornication, ce qui a mené la mort de Balaam et de 24 000 Israélites? Est-ce que nous voulons parler des personnalités de la télévision charismatique qui promettent que si vous leur envoyez de l'argent, Dieu augmentera votre compte bancaire? Si vous semez dans leur ministère, vous récolterez en grande quantité. Ou bien est-ce que c'est comme ces faux enseignants qui promettent que si vous avez la foi dans leur église ou l'église officielle, Dieu vous laissera entrer au ciel? Ou même comme ces faux enseignants qui déclarent sur la base de la parole de Dieu que sa volonté pour ses enfants en toutes circonstances est qu'ils vivent uniquement pour jouir des plaisirs de la vie? Salomon avait raison de conclure qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Voilà les hommes de Dan, encouragés par la certitude qu'ils étaient dans la volonté de Dieu, qu'ils faisaient la volonté de Dieu. Et ils se sont mis à faire leur propre volonté. La volonté de Dieu n'a pas résisté. Ils ont cherché un endroit différent que celui que Dieu leur avait donné. Ils sont allés chercher un endroit pour s'y installer. Verset 7, les cinq hommes partirent. Ils arrivèrent à Laïs sur la carte. Donc j'ai dit, c'est tout à fait au nord. Et virent le peuple qui y était, vivant en sécurité, à la manière des Sidoniens, tranquille, sans inquiétude. Il n'y avait dans le pays personne qui leur fasse le moindre outrage en dominant sur eux. Ils étaient éloignés des Sidoniens et ils n'avaient pas de liaison avec d'autres hommes. Ils revinrent auprès de leurs frères, à Tsoréa et Eshtaol, et leur frères leur dirent « Quelles nouvelles apportez-vous ?» Les espions donc ont voyagé jusqu'au point le plus nord, plus au nord de la terre de la promesse. Et les commentateurs sont partagés. Ils ont soit voyagé au-delà de la frontière de la terre de la promesse, soit ils étaient dans la partie la plus septentrionale de la terre que Dieu avait donnée à la tribu de Nephtali. C'est vraiment à la limite. Ils ont vu des gens vivre en sécurité, c'est-à-dire des gens qui vivaient sans crainte d'être envahis. C'étaient des Cananéens, le peuple que Dieu voulait chasser de la terre de la promesse, et ils vivaient en paix. La phrase à la manière des Sidoniens indique qu'ils vivaient sous l'influence de la culture puissante et bien ordonnée de Sidon, qui est au nord, c'est ce qui est encerclé tout à fait en haut de la carte. Mais aucune puissance militaire ne les humiliait. Ils possédaient de la richesse, dans ce sens qu'aucun peuple ne leur enlevait sa richesse par le biais de l'impôt. Ils étaient loin des Sidoniens, assez loin de Sidon, sur les montagnes du Liban. pour avoir une certaine indépendance. Il n'avait pas de liaison avec d'autres hommes. Il vivait dans un isolement calme, au moins jusqu'à maintenant. Et les espions ont trouvé l'utopie. Cela voulait dire pour eux que c'était la volonté de Dieu qu'ils envahissent, qu'ils tuent, qu'ils possèdent les gens et ce territoire. Sans aucun doute, à leurs yeux, ils avaient découvert la volonté de Dieu, ils étaient convaincus et ils sont allés convaincre leurs frères, leurs sœurs à leur retour que ça, c'était la volonté de Dieu. Verset 9. Allons, répondirent-ils, montons contre eux, car nous avons vu le pays et voici, il est très bon. Quoi, vous restez sans rien dire? Ne soyez point paresseux à vous mettre en marche pour aller prendre possession de ce pays. Quand vous y entrerez, vous arriverez vers un peuple en sécurité. Le pays vaste, Dieu l'a livré entre vos mains. C'est un lieu où rien ne manque de tout ce qui est sur la terre. Le rapport des espions laissait entendre que se déplacer vers le nord, s'emparer de la vallée paisible, était une évidence. Verset 9. Allez, répondit-il, montons contre eux, car nous avons vu le pays. Et voici, il est très bon. Les gens sur place ne soupçonneraient jamais l'attaque. Le pays était vaste, spacieux, et de toute évidence, c'était la volonté de Dieu pour eux de se déplacer. Dieu l'a livré entre leurs mains. C'est un lieu où rien ne manque de ce qui existe sur la terre. Mais attendez. Est-ce que ce n'était pas clairement la volonté de Dieu pour eux de posséder le pays que Dieu leur avait donné, l'héritage que Dieu leur avait donné? Et Dan n'a pas obéi à Dieu sur cette question. Et maintenant, ils sont convaincus que la volonté de Dieu a changé, parce que cette autre terre était plus facile à occuper. Très instructif de comparer ce rapport d'espionnage avec le précédent rapport des espions qui ont enquêté pour la première fois sur la terre de la promesse. Quelle ironie, quand Dieu avait clairement ordonné au peuple d'envoyer des espions dans le pays qu'il avait clairement promis de leur donner sous la direction de Moïse, les espions sont revenus avec un rapport décourageant et le peuple a refusé de faire la volonté clairement communiquée par Dieu. Maintenant, quand le peuple a envoyé des espions pour vérifier une terre, contrairement à la volonté de Dieu, ils reviennent et font un rapport très positif. Et le peuple est unanimement en faveur de faire ce qui est contraire à la volonté de Dieu. C'est une preuve que les gens utilisent le nom de Dieu, mais font ce qui est juste à leurs propres yeux. Ils font ce qui leur semble bon. Et c'est très facile pour nous de justifier la volonté de Dieu. Si nous faisons quelque chose qui n'est pas populaire, qui n'est pas politiquement correct, qui n'est pas acceptable pour la majorité, nous trouverons la vie un peu troublée. Et une vie troublée nous force à dépendre de Dieu, non seulement quotidiennement, mais à chaque instant. Et si je suis obligé de dépendre à Dieu à chaque instant, à quotidiennement, je n'aurai pas confiance en moi. Et ce n'est sûrement pas la volonté de Dieu que de vivre chaque moment de chaque jour en dépendance et en ayant confiance en lui. Si? Je pense que c'est ce que Dieu voulait dire par l'apôtre Paul en Romains 1, verset 17. En lui, dans l'Évangile, est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit le juste vivra par la foi. Est-ce qu'il ne semble pas que la volonté de Dieu se trouve d'abord dans les choses que Dieu a clairement énoncées dans sa parole? Et donc peut-être que ce n'est pas la volonté de Dieu que vous gagnez au loto aujourd'hui, parce qu'en gagnant, vous seriez tenté de ne plus dépendre de lui. Et comme les Danites à aller contrairement à ce qu'il a dit. Dan cherchait une nouvelle demeure. Deuxième grand point, Dan voulait un nouveau prêtre pour aller avec sa nouvelle demeure. En chemin vers leur nouvelle demeure, les espions ont raconté aux voyageurs la religion faite maison de Mica. Verset 14. Alors les cinq hommes qui étaient allés pour explorer le pays de Laïs prirent la parole et dirent à leurs frères: Savez-vous qu'il y a dans ces maisons-là un éphod, des théraphimes, une image taillée et une image en métal fondu? Voyez maintenant ce que vous avez à faire. Ils ont laissé entendre qu'ils devaient prendre le Lévite et les idoles avec eux. Quand 600 soldats sont arrivés chez Mica et chez le prêtre, il a été surpris, verset 18. Lorsqu'ils furent arrivés dans la maison de Mica, qu'ils eurent pris l'image taillée, l'éphod, les théraphimes et l'image fondue, le prêtre leur dit: Que faites-vous? Et les hommes forts de Dan ont offert au prêtre un nouveau poste, une promotion, verset 19. Ils lui répondirent: Tais-toi, mets ta main sur ta bouche et viens avec nous. Tu nous serviras de père et de prêtre. Vaut-il mieux que tu serves de prêtre à la maison d'un seul homme ou que tu serves de prêtre à une tribu et une famille en Israël? Maintenant, le Lévite, dont on ne connaît pas encore le nom, pourrait être le prêtre pour toute une tribu, et pas seulement une famille. Et ça, c'était sûrement la volonté de Dieu. Eh bien non. Parce que la volonté de Dieu révélée dans sa parole, c'était que les prêtres soient nommés par les prêtres de la lignée d'Aaron. Selon le plan de Dieu, celui qui devait servir comme prêtre n'était pas le choix du peuple. Et donc, ce n'était pas la volonté de Dieu. Et bien que surpris par l'apparition de ces hommes forts, le prêtre maintenant est heureux à l'offre, à la proposition qui lui est faite. Verset 20, le prêtre éprouva de la joie dans son cœur. Il prit l'éphod, les théraphimes, l'image taillée et se joignit à la troupe. Mais qu'est-ce qui est arrivé de la satisfaction précédente du Lévite? On a vu au chapitre 17, verset 11, que le Lévite se décida à rester avec Mica, avec cet homme qui regarda le jeune homme comme l'un de ses fils. Et c'était vrai, mais ça, c'était avant. À la lumière de cette nouvelle offre, de cette promotion, son contentement a changé. Et voilà l'inconstance de la personne qui fait ce qui est juste à ses propres yeux, ce qui lui semble bon, et qui tente de se convaincre que c'est la volonté de Dieu. L'apôtre Jacques décrit une telle personne comme étant un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Jacques 1, verset 8. C'est comme l'homme qui regarde une nouvelle voiture pour seulement un an, parce qu'il décide soudainement qu'il aime la voiture bleue plus que la voiture verte, et donc il change. Ou c'est comme la femme qui est si folle de l'homme qu'elle a rencontré au travail et qu'elle l'épouse. Quelques années plus tard, elle obtient un nouveau travail, rencontre un nouvel homme au travail. Elle décide qu'elle est plus folle de lui. Ou c'est comme le pasteur qui accepte un appel d'une église, qui dit aux gens qu'il les aime et qu'il sera leur pasteur jusqu'à la mort, jusqu'à la retraite, et puis qui part au bout de 3 ans, quand une église plus grande fait une offre plus alléchante. Toutes ces personnes vont essayer de se convaincre eux-mêmes et les autres qu'ils font la volonté de Dieu. Le Lévite était content d'avoir cette promotion par Mica. Quand cette bande a volé le prêtre, les dieux, elle a virtuellement volé la religion de Mica. Elle est partie. Qu'est-ce que Mica a fait? Qu'est-ce que vous auriez fait dans une pareille situation? Mica l'a fait, il a poursuivi, il les a affrontés, verset 23. Mica et ses voisins ont appelé les fils de Dan qui se retournèrent et dirent à Mica: Qu'as-tu? Que signifie ce rassemblement? Intéressant cette question. Qu'as-tu? Comme s'il ne savait pas quel était le problème. Mica répond, verset 24: Mes dieux que j'avais faits, vous les avez enlevés avec le prêtre et vous êtes partis. Que me reste-t-il? Comment donc pouvez-vous me dire: Qu'as-tu? Mais quand vous êtes assez puissant, vous n'avez pas besoin de négocier. Il suffit de menacer. Verset 25. Les fils de Dan lui dirent: Ne fais pas entendre ta voix près de nous. sinon des hommes irrités se jetteront sur vous, et tu causeras ta perte et celle de ta maison. » Et les fils de Dan continuèrent leur route. Mica, voyant qu'ils étaient plus forts que lui, s'en retourna et revint dans sa maison. Il semble que la conclusion précédente de Mica ne fonctionnait pas si bien. Une fois qu'il avait sa propre religion solidement établie, complète avec prêtre et éphod, en Juges 17, verset 3, Mica avait dit: Maintenant je sais que l'Éternel me fera du bien puisque j'ai ce Lévite pour prêtre. Il était tout à fait sûr que sa religion faite maison était la volonté de Dieu. Il était convaincu qu'il avait manœuvré si habilement que Dieu devait le bénir, qu'il le veuille ou non. Mais en réalité, en fin de compte, la religion faite maison va toujours décevoir. Quoi que nous transformions en notre Dieu, que ce soit l'argent, la puissance, les relations ou même une version réduite et faite maison du Dieu de la Bible, ce Dieu avec un petit dé ne pourra jamais délivrer. Nous sommes loin de la communion avec le vrai Dieu quand nous arrivons à la conclusion que Dieu devrait avoir foi en nous. Cela nous rappelle que nous sommes tous des adorateurs. La question est, qui ou quelle est la chose que nous recherchons pour le sens ultime, pour le but dans la vie, pour la bénédiction? Quelle est la chose à propos de laquelle, si elle nous était enlevée, nous dirions, Vous avez pris mon Dieu. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Où puis-je aller dans la vie maintenant? Je n'ai plus rien. Il n'y a qu'un seul Dieu qui ne nous sera jamais enlevé. Il est celui dont nous pouvons dire avec l'apôtre Pierre en Jean 6, verset 68, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Quand nous trouvons, nous découvrons le Seigneur Jésus, nous trouvons la bénédiction. Mais nous ne faisons vraiment l'expérience de sa bénédiction que lorsque nous lui disons, Seigneur Jésus, sans toi, qu'est-ce que j'ai d'autre? Tu es tout pour moi. Nous devons nous rendre compte qu'il n'y a nulle part ailleurs où aller dans la vie, qu'il n'y a pas besoin d'aller ailleurs dans la vie. Si nous savons que Jésus est finalement tout ce que nous avons et tout ce dont nous avons besoin, nous découvrons qu'il est éternellement tout pour nous et qu'en lui, nous avons tout pleinement. Dans la fin de l'histoire, nous voyons qu'à travers ce geste effronté de la tribu de Dan, la ville de Laïs, qu'ils ont renommée Dan, est devenue la porte d'entrée pour les ennemis du peuple d'Israël. Personne dans cette vallée n'a pu résister à cette armée. Verset 27. Ils enlevèrent ainsi ce qu'avait fait Mica et emmenèrent le prêtre qui était à son service et ils tombèrent sur Laïs, sur un peuple tranquille et en sécurité. Ils le passèrent au fil de l'épée et ils brûlèrent la ville. Personne ne la délivra, car elle était éloignée de Sidon et ses habitants n'avaient pas de liaison avec d'autres hommes. Elle était dans la vallée qui s'étend vers Beth-Réhob. Et les gens de la tribu de Dan se sont immédiatement occupés. Ils ont reconstruit la ville de Laïs. Ils l'ont appelée du nom de Dan. Ils ont rapidement établi leur propre marque d'idolâtrie. Les fils, vers la fin du verset 28, les fils de Dan rebâtirent la ville et y habitèrent. Ils l'appelèrent Dan, d'après le nom de Dan, leur père, qui était né d'Israël. Mais la ville s'appelait auparavant Laïs. Et ils dressèrent pour eux l'image taillée. Et Jonathan, fils de Guershom, fils de Manassé, lui et ses fils furent prêtres pour la tribu des Danites jusqu'à l'époque de la captivité du pays. Dès qu'ils se sont établis, le peuple de Dan a installé des images sculptées en désobéissance directe, encore une fois, à l'instruction de Dieu. Ils ne se voyaient certainement pas comme des païens, comme le peuple de Laïs qu'ils venaient de détruire. Ils ont sans doute regardé leurs belles images sculptées. Ils ont dit, c'est la représentation du seul vrai Dieu, de Yahvé, que nous aimons, que nous adorons. Mais c'est essentiellement ce que les Israélites avaient conclu au sujet du veau d'or, n'est-ce pas? Dans ce contexte, en Exode 32, verset 4, nous disons: Aaron reçut de leurs mains, jeta l'or dans un moule et fit un veau en métal fondu, et ils dirent: Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Et si nous étions présents, nous voudrions leur dire: Non, c'est Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu l'Esprit Saint qui vous a fait sortir d'Égypte. Et ils auraient répondu: Bien sûr que oui. Et ce veau d'or représente Dieu. Mais le peuple de Dan était hors de la volonté de Dieu, parce que Dieu avait déjà indiqué clairement où le peuple devait aller pour l'adorer. Avant que les tribus de Jacob n'entrent dans la terre de la promesse, Dieu avait donné instruction par Moïse en Deutéronome 12, versets 13 et 14: Garde-toi d'offrir des holocaustes dans tous les lieux que tu verras. Mais tu offriras des holocaustes au lieu que l'Éternel choisira, dans l'une de tes tribus. C'est là que tu feras tout ce que je t'ordonne. Et à cette époque, le lieu choisi par Dieu était Silo, où Élie et Samuel exerçaient leur ministère devant l'arche de l'Alliance. Et en fait, notre texte reconnaît cette violation de la loi de Dieu par les Danites, au verset 31. Ils établirent pour eux l'image taillée qu'avait fait Micha pendant tout le temps que la maison de Dieu fut à Silo. Eux, ils ont établi leur religion à Laïs, qu'ils ont appelée Dan. Mais il y a une autre tournure déprimante dans l'histoire. Jusqu'à présent, on ne nous a pas dit le nom du Lévite. Mais nous lisons verset 30: Ils dressèrent pour eux l'image taillée. Et Jonathan, fils de Guershom, fils de Manassé, lui et ses fils furent prêtres pour la tribu de Danite jusqu'à l'époque de la captivité du pays. Et en fait, il y a des manuscrits très anciens qui nous disent ici, qui parlent de Jonathan, fils ou descendant de Guershom, fils ou descendant de Moïse. Et d'autres manuscrits, les copistes, qui recopiaient l'Ancien Testament, ont modifié le texte parce que c'était trop choquant pour impliquer la famille de Moïse. Et ils ont mis Manassé, parce qu'effectivement le comportement ressemble à celui de Manassé. Et pourtant, le Lévite, qui a fait des compromis sur tout, sauf sur ses propres intérêts, était le descendant de Moïse. Et cela montre que Dieu n'est pas grand-père. Il n'a pas de petits-enfants. Il faut que chacun ait une relation personnelle avec lui, directe avec Dieu. Personne n'est apparenté à Dieu par un arbre généalogique ou parce qu'il appartient à une tribu ou une dénomination ou qu'il est membre d'une de telle église locale. Il faut une relation personnelle. Et ce n'est pas parce que le père, le grand-père, était quelqu'un qui connaissait Dieu que cela veut dire que le petit-fils automatiquement connaît Dieu. La famille de Moïse le montre. Qu'est-ce que Dan, qu'est-ce que Micha, qu'est-ce que le Lévite aurait dû faire? Ils auraient dû aller à Silo. C'est ce qui est entouré sur la carte à droite du carré rouge. C'est là que se trouvait le temple, le tabernacle. Dieu avait permis aux gens de s'approcher de lui, de l'adorer, de le connaître, de vivre avec lui. Le tabernacle, la présence, le lieu de la présence de Dieu parmi son peuple était à Silo. Et cela aurait dû être le point focal de la vie de Micha et des Danites. Il devrait être de même pour le tabernacle de Dieu aujourd'hui. L'homme qui est littéralement la parole faite chair, qui a tabernaclé parmi nous. Jean 1, 14, le Seigneur Jésus-Christ. Si nous ne centrons pas nos vies sur le Seigneur Jésus-Christ comme le seul moyen d'approcher, d'adorer, de connaître et de vivre pour Dieu, nous centrerons notre vie sur une religion faite maison, faite par la main de l'homme, sur une idole, sur quelque chose qui ne peut pas bénir. Et comme j'ai dit, pour terminer, l'histoire montre que la ville de Dan est devenue le portail par lequel les destructeurs d'Israël sont venus. C'est devenu le site de la fausse religion la plus destructrice d'Israël. 130 années après ces événements, le roi Jéroboam va ériger un autel à Dan, un autre à Bethel. Et ces autels seraient le substitut faisant autorité qui remplacerait le véritable culte de l'Éternel à Jérusalem. Dans les prophètes, Dieu a souvent rappelé ce péché comme la raison pour laquelle il a suscité les Assyriens pour détruire Israël à cause de leur désobéissance. On devrait trouver très intéressant et très ironique le fait que lorsque Dieu a envoyé les ennemis réels qu'il avait promis pour détruire son peuple, il les a envoyés par Dan. Satan et le faux culte sont entrés parmi le peuple d'Israël par la ville de Dan. Les Assyriens ont attaqué Israël en passant par Dan. Les Babyloniens aussi sont venus par Dan quand ils ont détruit Juda et Jérusalem. Quand nous rejetons les déclarations claires de la parole de Dieu pour faire ce qui est juste à nos propres yeux, pour faire ce qui nous semble bon, nous posons un fondement dangereux et destructeur. Alors, nous avons besoin de connaître la parole de Dieu. Nous avons besoin de nous soumettre à cette parole, de nous appuyer sur cette parole, de compter sur la sagesse de Dieu pour appliquer les principes de la parole de Dieu dans les domaines qui ne sont pas clairement énoncés. Nous avons besoin de vivre dans une communion avec Dieu qui est enracinée dans une dépendance envers lui à chaque instant, à chaque moment de chaque jour. Parce qu'une marche quotidienne dans une communion intime avec Dieu, par ce moyen que nous avons en Jésus-Christ, nous empêchera de construire une porte par laquelle le péché entrera. Apprenons des erreurs de Micha, de ce Lévite et des Danites. Que Dieu nous aide à méditer sur ces choses et qu'il bénisse sa parole à nos cœurs. Amen.